Chapitre 18. Old Faithful. L'exploration prudente de la comète commença alors qu'Univers était encore dans l'obscurité polaire. D'abord, des UME à une place explorèrent en les survolant lentement les phases diurnes et nocturnes, enregistrant tout ce qui paraissait intéressant. Une fois ces observations préliminaires terminées, des groupes comportant jusqu'à 5 savants partirent à bord de la navette du vaisseau pour déposer du matériel et des instruments au point stratégique. Lady Jasmine était bien différente des petits engins spatiaux primitifs de l'ère de Discovery, qui n'étaient capables d'opérer que dans un environnement sans gravité. La navette était en réalité un vaisseau spatial en réduction, conçu pour transporter du matériel et du fret léger entre univers restés sur orbite et la surface de Mars, de la Lune ou des satellites jupitériens. Son chef pilote, qui la traitait comme la grande dame qu'elle était, se plaignait avec une feinte amertume de l'indignité de voler autour d'une misérable petite comète. Quand le capitaine Smith fut tout à fait sûr que Halley ne dissimulait aucune mauvaise surprise, tout au moins à la surface, il décolla du pôle. Un déplacement d'une douzaine de kilomètres seulement transporta Univers dans un tout autre monde, du crépuscule scintillant qui durait des mois à un domaine du cycle de la nuit et du jour. Et à l'aube, la comète s'anima lentement. Tandis que le soleil s'élevait au-dessus de l'horizon au relief déchiqueté, ridiculement proche, ses rayons touchaient un à un les innombrables petits cratères criblant la croûte. La plupart restaient inactifs, leurs étroits gosiers bloqués par les incrustations de sels minéraux. Nulle part ailleurs, sur Halley, n'existait un aussi vif déploiement de couleurs. Elles avaient égaré les biologistes qui avaient cru que la vie commençait là, comme elle avait commencé sur la Terre, sous forme d'algues. Nombreux étaient ceux qui n'avaient pas encore abandonné cet espoir, même s'ils se refusaient à l'admettre. Mais d'autres cratères, des volutes de vapeur s'élevaient déjà vers le ciel en panache anormalement rectiligne, puisqu'il n'y avait pas de vent pour les dissiper. Généralement, il ne se passait rien d'autre pendant une heure ou deux, mais quand la chaleur du soleil à la verticale atteignait l'intérieur gelé, Halley se mettait à gicler, disait Victor Willis, comme une bande de baleines. La comparaison était pittoresque, mais pas tout à fait exacte. Les jets de la phase diurne de Halley n'étaient pas intermittents, ils jaillissaient régulièrement pendant des heures. Et ils ne se recourbaient pas pour retomber à la surface, mais continuaient de s'élever tout droit dans le ciel, pour aller se perdre dans le brouillard lumineux qu'il crée. Au commencement, l'équipe scientifique traita ces geysers avec autant de précaution que des vulcanologues s'approchant de l'Etna ou du Vésuve au moment les moins prévisibles de ces volcans. Mais ils ne tardèrent pas à découvrir que les éruptions de Halley, malgré leur aspect un peu effrayant, étaient singulièrement aimables et sages. La force des jets ne dépassait pas celle d'une lance à incendie et l'eau était à peine tiède. Quelques secondes après s'être échappée de son réservoir souterrain, elle se fondait en un mélange de vapeur et de cristaux de glace. Halley était enveloppé d'une perpétuelle tempête de neige qui tombait de bas en haut. Pas une goutte d'eau ne retournait à sa source. À chaque révolution de la comète autour du Soleil, davantage de son sang fuyait dans l'insatiable vide de l'espace. Cédant à la demande générale, le capitaine Smith accepta de poser Univers à 100 mètres d'Old Faithful, le plus grand geyser de la phase diurne. C'était un spectacle impressionnant. Une colonne de brume d'un gris blanchâtre, poussant comme un arbre géant, d'un orifice étonnamment petit au centre d'un cratère de 300 mètres de diamètre, qui semblait être une des formations les plus anciennes de l'astre. Bientôt, les savants grouillèrent dans tout le cratère pour recueillir des spécimens de sels minéraux multicolores, et complètement stérile, hélas, et plongeaient sans hésitation leurs thermomètres et éprouvettes dans la colonne d'eau glace brume elle-même.
« Si elle envoie l'un de vous dans l'espace, avertit le capitaine, n'espérez pas que nous allions vous chercher. En fait, nous n'avons qu'à attendre que vous reveniez, peut-être. »«
Qu'est-ce qu'il veut dire par là ?»
demanda Dimitri Mihailovitch, perplexe. Comme d'habitude, Victor Willis fut prompt à la réplique.
« En mécanique céleste, les choses ne se passent pas toujours comme on s'y attend. Tout ce qui est rejeté de Halley à une vitesse raisonnable continue de se déplacer essentiellement sur la même orbite. Il faudrait un énorme changement de vitesse pour créer une différence. Une révolution plus tard, les deux orbites se recoupent et vous revenez à votre point de départ. de 76 ans plus vieux, naturellement.
Pas très loin d'Old Faithful, les savants découvrirent un autre phénomène que personne n'aurait pu logiquement prévoir. Ils eurent du mal à en croire leurs yeux. Sur plusieurs hectares, exposés au vide de l'espace, s'étalait une sorte de lac tout à fait ordinaire, uniquement remarquable par sa noirceur extrême. Ce ne pouvait être de l'eau, évidemment. Les seuls liquides susceptibles d'une stabilité suffisante dans cet environnement étaient les huiles ou goudrons organiques lourds. En réalité, le lac Tuonela ressemblait à de la poix, tout à fait solide, à part une couche poisseuse à la surface de moins d'un millimètre d'épaisseur. Dans cette gravité négligeable, il avait dû falloir des années, sans doute plusieurs voyages autour des feux du soleil, pour lui donner son aspect lisse de miroir. Le lac devint une des principales attractions touristiques de Halley jusqu'à ce que le capitaine y mette bon ordre. Quelqu'un, personne ne revendiqua ce douteux honneur, s'était aperçu qu'il était possible d'y marcher tout à fait normalement, la pellicule de surface étant juste assez collante pour maintenir le pied en place, comme si l'on était sur la terre. Bientôt, presque tout l'équipage voulut se faire vidéographier en train de marcher apparemment sur l'eau. Mais lorsque le capitaine Smith examina son sas et s'aperçut qu'il était tout couvert de goudron, il se laissa aller à une manifestation de colère assez étonnante chez lui.
« C'est déjà exaspérant, gronda-t-il entre ses dents serrées, d'avoir tout l'extérieur du vaisseau couvert de suie. La comète de Halley est bien l'endroit le plus dégoûtant que j'ai jamais vu. »
Ainsi prirent fin les promenades sur le lac Tuonela.